Radio Okapi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité visé par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Les pétitionnaires dénoncent une gestion jugée inefficace de la situation sécuritaire marquée par la recrudescence des actes criminels, notamment à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Les enfants congolais sont exposés à plusieurs facteurs de vulnérabilité, dont la pauvreté. Ce constat ressort de l'atelier consacré au processus d'analyse du paysage climatique pour les enfants CLAC, organisé le week-end dernier à Kinshasa. Des violents affrontements opposent depuis mercredi 8 avril les rebelles de l'FCM23 aux combattants Wazalendo dans les territoires des Masisi et de Walikale au nord Kivu, ainsi qu'à Kalehe dans le sud Kivu. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont analysé cette escalade de combat dans cette partie du pays. Vous allez les suivre tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour à tous. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité est visé par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. L'initiative est portée par les députés Ladi Yangoti Kala, élu de Kisangani dans la Tshopo et membre de l'Union Sacrée Plateforme Politique au Pouvoir. Il a déposé sa motion ce lundi affirmant qu'elle a recueilli plus de 50 signatures. Les pétitionnaires dénoncent une gestion jugée inefficace de la situation sécuritaire marquée par la recrudescence des actes criminels, notamment à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Selon l'initiateur, cette insécurité persistante révèle des failles dans la coordination des services et une incapacité à répondre aux attentes de la population. Ladi Yangoti Kala, au micro de Grace Amzati.
Vous êtes journaliste. Il y a quelques mois, un de vos collègues avait été kidnappé, journaliste à la RTNC, tué. Deuxièmement, un collègue à moi, médecin, avait été kidnappé, tué, docteur Nicole. Troisièmement, vous vivez à Kinshasa ou ailleurs? Il y a braquage, à main armée, pendant la journée. Vous connaissez les enquêtes qui sont faites? Vous connaissez ce qui a été fait par rapport à la condamnation ou au traitement de ceux qui ont été arrêtés? Et chaque jour qui passe, le Congolais vit en insécurité. Chaque jour, que dire? Doit-on rester silencieux, garder notre langue dans la poche parce que nous sommes de l'Union Sacrée? Non. Lorsque le président de la République vous fait confiance, c'est justement pour pouvoir exécuter sa vision. C'est prioriser le peuple d'abord. Le peuple a besoin de quoi? Le peuple a besoin de la circulation libre. Maintenant là, on ne sait même plus circuler librement pendant la journée dans la ville de Kinshasa. Et nous avons retiré la confiance qu'il daigne, dans les 48 heures qui suivent, déposer sa démission président de la République.
Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette motion devra faire l'objet d'un débat en plénière au terme duquel les députés décideront par vote du maintien ou non du ministre à son poste. Restons à l'Assemblée nationale. Les rapports des vacances parlementaires, véritable miroir des réalités vécues par les Congolais sur le terrain, tardent encore à être déposés par certains élus. Pourtant, ces documents sont essentiels. Ils permettent de faire remonter les préoccupations des populations et d'orienter les décisions publiques. S'exprimant ce lundi devant la presse, le rapporteur adjoint de la Chambre basse, Clotilde Mutita, dresse un état des lieux globalement positif tout en appelant les députés à davantage de responsabilités. Elle annonce par ailleurs la mise en place prochaine d'une commission chargée de compiler l'ensemble de ces rapports en vue d'une synthèse nationale destinée à dégager les priorités du pays et à guider l'action des institutions face aux attentes des populations. Clotilde Mutita dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Nous sommes exactement à un mois depuis la rentrée parlementaire de cette session du mois de mars. Et suivant notre règlement intérieur, c'est après les 15 jours que nous annonçons déjà la fin du dépôt des rapports des vacances parlementaires. Et donc nous sommes déjà au-delà de l'échéance, mais il est de bon aloi de faire un état des lieux. Donc ici, je voudrais encourager et féliciter en même temps les honorables députés nationaux qui se sont encouragés d'abord eux-mêmes et ils se sont mis vraiment à l'œuvre. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à plus ou moins 321 rapports des vacances parlementaires en format physique et 131 en format numérique, et ce qui est vraiment encourageant et très génial. Les députés sont très conscients de leur redevabilité et de leur travail. Mais déjà, nous sommes dans le bon. C'est une première depuis le début de cette législature. Nous vous encourageons ceux-là qui ne se sont pas encore mis à l'œuvre, donc ceux-là qui n'ont pas déposé.
Province du Tanganyika, les armateurs du territoire du Congolo ont déclenché ce lundi un mouvement de grève. Ils accusent la régie des voies fluviales RVF de ne pas accomplir ses missions, mais de ne se contenter que de percevoir des taxes. Parmi les grèves portées contre la RVF figure notamment le non-balisage de la navigation intérieure sur les fleuves ou le non-dragage ou curage du rivage de ports fluviaux. Paul Munanga nous en parle.
Le cabinet d'avocats des armateurs du territoire de Congolo rappelle que leurs clients œuvrant sur l'axe Bukama-Congolo sont liés avec la régie des voies fluviales RVF par un contrat. Ils soulignent que la RVF devrait remplir ses 5 premières missions avant de procéder à la perception des taxes qui est sa 6e mission. Parmi ces missions, il y a le balisage des voies de navigation intérieure comprenant la pose et l'entretien des feux, bouées de sauvetage, signaux, alignements limitatifs et axiaux et autres repères de navigation. Il y a aussi le dragage et l'entretien des passes de navigation, ainsi que le curage du rivage des ports fluviaux. Maître Christian Pandemoja est avocat conseil.
Ils sont dans un contrat synalagmatique où chacune des parties devait accomplir ses tâches. Mais actuellement, c'est une surprise. Pendant que rien n'est encore fait sur terrain, l'RVF surgit et commence à demander la même taxe. Voilà pourquoi les armateurs disent qu'il fallait que l'RVF monte là où était parti les premiers montants de 10 ans. Et vous allez vous rendre compte que quand vous prenez les bateaux Congolo, Kabalo, il y a le niveau de Kalenga où il y a des rochers. Les bateaux font des naufrages en désordre. Or, l'RVF ne fait rien.
Nous ne sommes pas parvenus à obtenir la réaction de la RVF. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Je le disais en titre, les enfants congolais sont exposés à plusieurs facteurs de vulnérabilité, dont la pauvreté. Ces constats ressortent de l'atelier consacré au processus d'analyse du paysage climatique pour les enfants CLAC, organisé le week-end dernier à Kinshasa. Forum coordonné par le ministère de l'Environnement en collaboration avec les Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF. Blaise Ndonga Lamayanda dans les détails.
Outre la pauvreté, plusieurs autres facteurs affectent la vie des enfants en RDC, notamment les inégalités du genre, les catastrophes naturelles et les effets du changement climatique. Selon Aimé Mboui, directeur au ministère de l'Environnement, les phénomènes tels que les inondations, la sécheresse ou encore les glissements de terrain n'impactent pas uniquement l'environnement. Il a souligné, je cite, « Lorsque surviennent ces catastrophes, ce n'est pas seulement la nature qui en souffre, mais également et surtout les enfants. » Fin de citation. De son côté, Janine Matondo, chef de division au secrétariat général à la jeunesse, estime que l'éducation environnementale doit être intégrée dans les programmes scolaires nationaux.
Qu'on intègre dans le programme national de l'éducation, l'éducation environnementale, de le bas âge. Nous, en tant que ministère qui a reçu mandat d'encadrer les jeunes, nous saluons cette initiative et d'ailleurs, ça a toujours été notre champ de bataille.
Pour Daniel Mukubi, représentant de la secrétaire générale à l'environnement, le gouvernement multiplie les efforts pour répondre aux attentes de la jeunesse en matière de protection du climat. Selon les données présentées au cours de ces assises, plus de 9 enfants sur 10 en RDC vivent déjà les effets d'aléas climatiques extrêmes, un niveau de vulnérabilité parmi les plus élevés au monde.
Deux jeunes filles âgées de 4 à 17 ans se trouvent également parmi les enfants de la rue à Bounia. Tous ont fui l'insécurité dans les territoires de Djougou en Ituri. Confrontés à des conditions de vie extrêmement difficiles, certaines sombrent dans la consommation des drogues et sont exposées à des abus sexuels et grossesses non désirées. Elles trouvent abri dans des maisons en chantier ou devant des magasins, souvent en compagnie de jeunes garçons. Suivez ces reportages de David Mugisa qui dresse les portraits de quelques-unes de ces jeunes filles.
Parmi ces jeunes filles, Maave Priska, âgée d'environ 17 ans, orpheline, ses parents ont été tués lors des violences armées dans les territoires de Djougou. Elle a fui vers Bounia où elle survit aujourd'hui dans la rue aux côtés d'autres enfants déplacés majoritairement des garçons. Une situation qui l'expose à de multiples formes de violences. Profondément marquée par des traumatismes de la guerre, elle consomme régulièrement des substances toxiques, notamment de l'essence qu'elle inhale à partir des bouteilles en plastique. Sans encadrement familial, elle dit avoir perdu tout espoir pour son avenir.
Le plus grand problème que nous avons, c'est la faim. Je survis grâce à ce que je demande dans la rue. Je ne suis pas fière de cette vie. Je compte d'ailleurs retourner chez ma tante à Bounia.
Même si tient ce pour Espérance Bouingui, âgée d'environ 14 ans. Après le divorce de ses parents, sa mère s'est remariée et elle s'est retrouvée livrée à elle-même dans la rue où elle vit depuis plusieurs années. Malgré ses conditions précaires qui la contraignent à mendier ou à effectuer des travaux domestiques, elle garde l'espoir de retrouver un jour sa famille.
Notre domicile se trouve à Ngoï. Ma mère a déjà divorcé de mon père. Nous faisons des travaux journaliers pour gagner un peu d'argent et survivre. Je souhaite rentrer chez nous à la maison.
Comme elle, des centaines d'enfants victimes de conflits vivent dans les rues de Bounia, souvent dans l'indifférence générale. Tous aspirent à la paix et à une vie meilleure, avec notamment la possibilité de retourner à l'école.
La province du Maniema vient de réceptionner une tonne de semences de maïs et 500 kilos de haricots du gouvernement central. Selon le ministre provincial de l'agriculture qui les a réceptionnés, cette dotation entre dans le cadre de la relance agricole. Hassani Somwe Bin Choma demande à la population de s'approprier cette vision du chef de l'État afin de lutter contre l'insuffisance et l'insécurité alimentaire. Ces semences permettront à la province du Maniema de reprendre son statut de grenier agricole du pays. On écoute Hassani Somwe Bin Choma au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, nous avions réceptionné une tonne de maïs en provenance du gouvernement central et 500 kilos d'haricots. Et en plus de ça, le même gouvernement central nous a déjà appuyé toujours en semences avec un lot de 3,5 tonnes de café. C'est l'eau qui est en train d'être semée un peu partout dans les 7 territoires. Nous saluons quand même l'appui du gouvernement central. Nous remercions également le chef de l'État dans sa vision de la revanche du sol sur les sous-sols. Nous constatons ici au Maniema la force du gouvernement, son accompagnement, son appui dans le secteur de l'agriculture au niveau de la province du Maniema. Nous disons également merci au ministre d'État en charge de l'agriculture qui est en train de faire la mise en œuvre de cette même vision du chef de l'État à travers toutes les provinces du pays. Nous rassurons au gouvernement central que la mise en œuvre doit être dupliquée un peu partout dans tous les territoires où la population paysanne doit s'approprier de cette vision pour que nous puissions relever les défis. Il s'agit de la culture pérenne, vivrière et de la culture maraîchère.
Au moins 6 axes routiers des dessertes agricoles dans le secteur de Rwenzori, territoire de Beni, se trouvent dans un état de délabrement très avancé à cause de la saison de pluie qui bat son plein depuis plusieurs semaines dans la région. La société civile locale tire la sonnette d'alarme tout en déplorant la lenteur dans l'exécution de ces travaux lancés en janvier dernier par le gouvernement provincial. Elle appelle les gouverneurs des provinces à s'impliquer pour trouver une solution à cette situation qui impacte négativement les activités socio-économiques. Écoutez Ricardo Rupande, président de la société civile du secteur de Rwenzori, joint au téléphone par Marc Marofimo.
Nos routes de dessert agricole continuent à moisir parce qu'il n'y a aucune action d'entretien de routes de dessert agricole. Elles sont restées telles qu'elles ont été et jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les routes, presque les activités sont là. Sur Kilia, jusqu'à Oulebo, donc en passant par Alungupa, la tributaire est là. Sur Nzenga, jusque l'Oselose, la tributaire est là. Sur Nzenga, jusque Lume, et en passant même jusque Rugeti, la tributaire est là. Mais si vous arrivez dans la route et voir l'état de la route, vous allez pleurer. Il n'y a rien qui s'est fait parce que on a enlevé la responsabilité de la route au secteur ou même aux communes. Même les responsables ici de l'État sont en train de croiser les bras tout simplement parce que la responsabilité a resté au seul gouverneur. Et rien n'avance sur le terrain. Moi, je pense qu'il faut que le gouverneur choisisse quelqu'un d'autre pour venir voir ce qui s'est fait sur le terrain. Mais je vous dis la vérité, il n'y a rien jusqu'aujourd'hui.
Toutes nos tentatives pour obtenir la réaction du conseiller provincial du gouverneur en charge des infrastructures et travaux publics sont restées vaines. Retour à Bounia, en Ituri, où des habitants qui vivent à proximité des abattoirs dénoncent les mauvaises conditions d'hygiène. Ils disent être exposés quotidiennement à des odeurs nauséabondes avec des risques pour leur santé. Les responsables de ces abattoirs reconnaissent la situation, mais rejettent la responsabilité sur les autorités qui doivent assainir ces lieux avec l'argent des taxes qu'ils payent quotidiennement, selon eux. Martial Kizabiamungu a visité certains de ces abattoirs. Voici son reportage.
Nous sommes au mini abattoir du centre-ville de Bounia. Des chèvres et des cochons sont égorgés à tour de rôle. Certains abattages se font sur un espace cimenté, aménagé sommairement, d'autres sous une bâche à moitié usée. Juste à côté de la boue et des déchets énormes composés de sang et de déchets organiques des animaux abattis. Ces ordures dégagent des odeurs nauséabondes des habitants vivant à proximité de ces abattoirs sans plaigne.
Ici à l'abattoir, il n'y a pas moyen. Il y a tellement de l'odeur, pas moyen de rester à l'aise.
Des sources proches de la mairie de Bounia indiquent que les maires de la ville reconnaissent cette situation et craignent tout aussi des conséquences sur les plans sanitaires. Les mêmes sources ajoutent que l'autorité urbaine a initié certains travaux pour la canalisation des déchets afin d'épargner les riverains. Témoignage de ces maçons retrouvés en train de travailler sur des voies de canalisation de déchets au mini abattoir urbain de Bounia.
Ici, il y avait déjà beaucoup de déchets. C'est pourquoi le maire de la ville nous a envoyé de venir construire ici des voies de sortie.
Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le blocus des ports iraniens décidé par les États-Unis est entré en vigueur lundi 13 avril. Une mesure illégale dénonce les commandements iraniens qui alourdit la situation dans le golfe Persique. Des centaines de bateaux sont bloqués dans les détroits en espérant que la situation évolue. Et parmi eux, des milliers de marins. Un Chinois a documenté durant plusieurs jours son quotidien de marins en attente de pouvoir franchir les détroits d'Hormuz et a publié sur les réseaux sociaux chinois Douyin.
L'invité.
Des violents affrontements opposent depuis mercredi 8 avril les rebelles de l'FCM23 aux combattants Wazalendo dans les territoires de Massissi et de Walikale au nord Kivu, ainsi qu'à Calais dans le sud Kivu. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont analysé cette escalade de combats dans cette partie du pays. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Fiston Missona, vous êtes président territorial de la société civile Force Vive de Walikale au nord Kivu. Vous êtes dans cette région. En plus des informations que nous venons de suivre dans ces reportages de Benjamin Mudumbi, qu'est-ce que vous avez encore à ajouter en ce qui concerne la situation d'aujourd'hui, lundi, dans cette zone de combat qui couvre le territoire de Massissi, quelques localités de Walikale au nord Kivu et de Calais au sud Kivu?
Il faut noter que cette même situation est persistée dans plusieurs territoires en forêt du Nord-Kivu, notamment dans les territoires au sud de Massissi, précisément à Buto. Et les M23 continuent à attaquer, notamment les populations civiles et des braquages qui sont signalés aussi dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Nyiragongo, territoires de Massissi, Walikale y compris, au Nord-Kivu également, comme vous l'avez annoncé. Au sud Kivu, précisément du côté de Ziralo. Et comme vous l'avez toujours annoncé, vous avez toujours suivi dans les réseaux sociaux que l'M23 s'est retiré. Ça, nous considérons que c'est une diversion. Il se délocalise d'un côté pour s'abriter. De l'autre côté, comme vous l'avez suivi, que l'M23 est en train de se retirer dans les territoires de Lubero, dans les territoires de Rutshuru et une partie aussi dans les territoires de Walikale. Mais plutôt, il continue à se renforcer en hommes et en munitions dans les territoires de Walikale et Massissi et Calais. Et tout cela, c'est pour chercher à tout prix, voir là où ils peuvent trouver les couloirs pour pénétrer justement le territoire de Walikale en passant par Ziralo. Et là, il va chuter dans le groupement Waloa Luanda, précisément dans le village qu'on appelle le Sungidiku à Rombonor. Et là, il va pouvoir couper les liaisons en pénétrant la route nationale numéro 3 à Rombonor et qui sépare le territoire de Walikale et le territoire de Massissi. Et là, ça va couper les liaisons et justement... Et que ce soit nos éléments FRDC ou Azalum qui seraient au niveau de Boulambika qui ont barré la route du côté du parc national de Kaoutibiega.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamouka, vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer l'escalade des combats entre la FCM23 et les Wazalendo dans les territoires de Massissi et de Walikale au Nord Kivu, ainsi que de Calais au sud Kivu?
Ces affrontements tels que rapportés démontrent que les M23 et l'armée rwandaise poursuivent leur objectif militaire, et là sur deux axes. Vous avez bien parlé de Poitiers, mais derrière Poitiers, l'armée rwandaise, l'M23, vise à prendre le contrôle de Pinga. Pinga qui est un carrefour militaire stratégique pour couper tout rapport dans ces zones vers le Rutshuru, vers le Masisi, mais également par Kalehe, Zigalo. Le M23 voudrait tenter de faire un forcing vers des agglomérations à territoire de Kalehe et même à Kabare pour frayer un chemin vers Bunyakiri. Dans l'espoir que si il parvient à prendre le contrôle de Bunyakiri, et là, il a une route directe qui, dans le cas où le processus de Doha vont bloquer, il y a une route qui leur permet de prendre la direction de Kisangani et ainsi ceux qui sont à Walikale pourront se retrouver à Neto. Donc, le M23 fait le talk and fight. Les offensives se poursuivent sur le terrain et entre-temps, on parle à Doha avec cette diversion présentée par les emplois de retrait de Lubero.
Merci Grégoire Mirindi Tcharangabo. Vous êtes député national honoraire. Vous êtes président du parti politique dénommé Juste Patriote pour la République. Public JPR en sigle, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes également notable de la province du Sud Kivu. Et à votre avis, que faut-il pour parvenir à la désescalade dans cette région?
Je crois que d'abord, il y a des instruments juridiques qui existent. Parce que, comme je l'ai dit, le droit international est du côté de la RDC. Et il y a aussi l'accord même de Washington. Je crois qu'il faut peut-être des rencontres pour que les partis, surtout ceux qui veulent nous aider. Parce que si les États-Unis se sont intéressés à la question, alors il ne faudrait pas que le processus que les États-Unis prennent à bras le corps puisse tomber alors qu'ils nous rassuraient. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la résolution 2373 jusque-là souffre. On n'en parle pas tant, on parle beaucoup plus des États-Unis que cette résolution, alors que c'est cette résolution qui engage la communauté internationale. Et moi, mon point de vue par rapport à ça, il faut revenir à cette résolution-là.
Vous pouvez continuer à suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin, préparé pour vous par Jude Mystère Bilan dans Kumar et mis en onde par Pierre Diassinois. Merci et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.